La convention annuelle Anna Kofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.
Et on poursuit donc notre journée ici au Carrousel du Louvre depuis la convention Anna Kofi que fréquente habituellement bien évidemment Radio Patrimoine pour soutenir cet écosystème de la gestion de patrimoine. Et notre invité à présent, c'est Youssen Sevinç. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de Radio Patrimoine, directeur des partenariats d'Eiffel. Bon, on va d'abord représenter un petit peu qui est Eiffel. Dites-nous en quelques mots, dresser le portrait de cette belle maison.
Bon, en quelques mots, on peut être très bavard, donc je vais essayer d'être bref. Donc Eiffel Investment Group, c'est une très belle société de gestion. Avec 120 collaborateurs, près de 120, et on se développe en France, en Europe et un petit peu dans le monde également en tant que société de gestion pour gérer des fonds, lever des capitaux et accompagner des entrepreneurs et des projets d'infrastructure. Donc on gère pour cela, pour le compte d'investisseurs institutionnels, 7 milliards d'euros environ et on travaille également avec des clients privés via justement les conseillers en gestion de patrimoine et le milieu du patrimoine globalement. C'est pour cela qu'on est à l'Anna Kofi aujourd'hui présent pour voir nos partenaires, nos clients. Deux grands métiers simplement, c'est de financer, d'accompagner des entreprises sous toutes leurs formes. Donc ça passe de l'action en obligation, le private equity, capital investissement, la dette, des actions cotées et des obligations cotées également. Donc toute la chaîne de financement, d'accompagnement des entreprises. Finalement, notre tissu économique qui est important en France et en Europe. Et également le financement des projets d'infrastructure autour de la transition énergétique. Pour cela, donc, ça fait pratiquement 15 ans qu'on exerce un peu plus, voire même pour des clients privés via des conseils en gestion de patrimoine.
Alors un petit mot maintenant sur le monde qui nous entoure, surtout avec toutes les thématiques que vous venez d'évoquer, voilà tout ce qui est ESG, etc. Pris dans le maelstrom du tourbillon de Donald Trump. Alors on va pas vous demander une analyse macroéconomique, c'est pas votre taf. On va pas vous demander de décortiquer entreprise par entreprise que vous avez dans vos produits l'impact des derniers droits de douane de Trump, parce que il va bien falloir que tout le monde essaye d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, de voir si ça dure. Enfin bon, voilà, on connaît toutes les incertitudes que balance le nouveau président américain désormais, mais j'imagine quand même que dans tous vos comités de gestion, etc., depuis le mois de janvier, depuis même l'élection en novembre, vous restez pas là les bras ballants et vous avez un peu envisagé, réfléchi, appréhendé l'animal orange et coloré, aux cheveux colorés qu'on a à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'on se dit quand on vit dans cet écosystème financier et patrimonial face à ce tourbillon qui emporte tout?
Finalement, en fait, on va même remonter plus loin que l'élection de Donald Trump, parce qu'en fait, le monde a quand même beaucoup changé et basculé en 2020 avec le Covid. Donc, c'est déjà il y a 5 ans, au final. Et entre-temps, on a vécu quand même beaucoup de moments assez anxiogènes sur le plan macro. Au final, dans les sociétés de gestion, par exemple, avec des comités de gestion qui ont une vision non pas sur 3-5 ans, mais plutôt sur 5-10 ans, des sociétés de gestion de capital investissement, d'infrastructures, de financement long terme en fait, de l'économie, ce sont des facteurs anxiogènes. Et au final, on remonte en 2020, le monde a basculé, les métriques changent, il faut s'adapter perpétuellement en fait à ce monde. Et les conseillers en gestion de patrimoine et le monde patrimonial globalement doit également le faire. Aujourd'hui, c'est ma grande conviction aujourd'hui. Donc on a un retour depuis 2022 justement sur les sujets autour de l'obligataire, où il y a des opportunités.
Bien sûr.
Voilà. Et la dette privée également sur le non-coté. Donc il y a un regain d'intérêt sur certaines classes d'actifs. Au final, chaque période anxiogène ont des opportunités à saisir. On le voit. Et quand je remonte un petit peu en arrière, finalement, pendant un an et demi post-Covid, il y a eu une remontée et ensuite, on ne savait plus vraiment trop quoi faire en allocation. Au final, c'était un peu tétanisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des secteurs sur lesquels il y a des opportunités. Je passe de l'immobilier, du private equity, de plein de volets. Donc les allocations sont plus faciles à effectuer aujourd'hui.
Tiens, vous prononcez le mot presque magique en ce moment de private equity. Tout le monde n'a que ça à la bouche. C'est vrai que c'était une classe d'actifs qui n'est pas nouvelle, qui était jusqu'à présent, on dit, réservée à une forme d'élite. En tout cas, il fallait des gros tickets pour rentrer. Et depuis, il y a une forme de démocratisation de ce private equity. Comment vous le vivez, vous ? Comment vous le regardez ? Parce que vous gérez aussi des actifs privés, etc. Enfin, comment est-ce que vous vivez ce nouvel attrait, cette nouvelle âge d'or, entre guillemets, du private equity ?
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la démocratisation du private equity. Si on décortique un petit peu, la démocratisation, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est d'ouvrir aux clients particuliers. Ouais. Finalement, en fait, le non-coté, c'est ouvert déjà aux particuliers depuis 96-97, les premiers contrats DSK. Les plus anciens, ils sauront de quoi je parle. C'était un semi-échec ou un semi-réussite, plutôt un semi-échec, on va dire. Et ensuite, ça s'est développé avec la poussée réglementaire des nouveaux dispositifs pendant ce laps de temps-là. Et aujourd'hui, on n'a que ça à la bouche, non, la démocratisation. Ça fait 16 ans que moi, je travaille dans la démocratisation, en fait, finalement, du private equity, en fait.
Vous n'avez pas attendu les produits modernes.
Et Eiffel Alto, également, depuis 2001. Donc, c'est encore plus loin. Et au final... Quand on parle de private equity, déjà, on va parler de capital investissement. C'est le mot français du private equity. Et finalement, le capital investissement, c'est un des segments des actifs privés. Les actifs privés, c'est aussi vaste que le monde des actions, des obligations cotées, des OPCVM que tout le monde connaît, au final. Enfin, tout le monde patrimonial, les professionnels. Et donc, si on décortique un petit peu ça, les actifs privés, principalement non cotés, capital investissement. À l'intérieur, on trouve des segments très, très variés. Du venture capital, du capital risque, capital développement, le capital transmission, le capital retournement. Oui. À l'intérieur, il y a même des spécialités par segment, secteur, etc. C'est très, très vaste. Deuxième segment, c'est la dette privée. Donc, c'est finalement financé en obligations non cotées des entreprises. Également, il y a des segments de marché, la dette senior, la dette unitranche, les subordonnées, etc., etc. Donc, c'est très vaste encore dessus. Et l'infrastructure non cotée, ça aussi, ça peut avoir des différents segments, des spécialités. On peut faire des ponts, des aéroports, de la transition énergétique, des énergies renouvelables et énormément de choses aussi en dette ou en actions non cotées. Et on peut mettre aussi à côté les autres actifs un peu alternatifs qui sont les forêts, l'immobilier même en fait à l'intérieur des actifs privés. Donc en fait, c'est un monde assez vaste. Donc résumer le mot démocratisation, les mots oui. du private equity, c'est très réducteur aujourd'hui, mais ça permet aujourd'hui de voir des offres qui sont à destination des clients privés, et tant mieux, parce que le marché s'élargit, et ça, nous, on y participe, et on est en faveur de l'élargissement de ce marché-là.
Si on va un peu plus loin sur l'offre d'Eiffel, alors on va pas faire la réclame des produits, on ne vendra pas de grosses chaussures, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que vous avez une palette très large de propositions à faire tout de même au CGP qu'on va croiser tout au long de la journée et avec lesquelles vous travaillez au quotidien.
Bah finalement, notre palette, elle va être plutôt spécialisée et finalement un peu large par rapport à d'autres sociétés de gestion qui ont des produits de manière assez vaste. Nous, on va avoir des segments de marché qui fonctionnent pour des clients institutionnels qu'on va rendre accessibles aux clients privés. C'est quoi ? C'est les infrastructures non cotées, avec des unités de compte qui peuvent être adressées aux clients privés dans une allocation. C'est également le segment de l'obligataire coté, qui a un regain d'intérêt, notamment depuis l'inversion des taux en 2022. Donc, il y a des opportunités à aller chercher sur du crédit coté, notamment via des fonds obligataires datés. Il y a également les sujets autour du capital investissement spécialisé en fiscal sur les fonds fiscaux, FCPI par exemple, qu'on fait depuis plus de 23 ans, mais également sur les actions small et mid cap, petite et moyenne capitalisation, sur lesquelles en fait on opère également. Donc quelques sujets spécialistes que nous sommes, avec une approche en fait de gestion des risques aussi globalement sur l'ensemble de nos métiers et un angle transition énergétique ou ESG qui est très fort en fait ancré chez les dirigeants déjà, qui impulse cela dans les équipes de gestion au sein d'Eiffel.
Pour terminer, on va vous utiliser aussi comme thermomètre, comme baromètre un petit peu de ce qui se passe ici, de ce qui se dit. Alors, on est encore au début de cette convention qui va battre son plein tout au long de la journée, mais voilà, les premiers contacts que vous avez eus, les premiers CGP que vous avez pu croiser dans les allées, vous les sentez comment ?
Bah déjà, je sens de la bienveillance. Ce qui est important, on a connu des périodes où c'était beaucoup moins chaleureux, en fait, finalement, aujourd'hui. Et aujourd'hui, le baromètre, je dirais, c'est qu'il y a une volonté d'aller un peu de l'avant parce que finalement, je reviens un petit peu à mes propos, en 2020, Covid, etc., on a quand même connu en fait, des périodes qui étaient un peu anxiogènes. Donc en fait, je rencontre même depuis un an les professionnels du patrimoine qui ont cette envie d'aller de l'avant en disant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ce contexte-là, quel type d'opportunité je peux saisir. Et je pense que les salons comme la convention de l'Anacofi, c'est un bon baromètre et on verra en fin de journée quel va être le vrai baromètre finalement.
Parce que à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on
bien
dit dans le monde paysan. Merci beaucoup, Youssen Sevinj, donc pour Eiffel, au cœur de cette convention de l'Anacofi que Radio Patrimoine accompagne aujourd'hui depuis le Carrousel du Louvre.
La convention annuelle Anacofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.